Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas.
Bonjour Jean-Jacques Urvoas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes le père d'une petite révolution dans la vie des Français. On en a beaucoup parlé sur RTL lundi. Ceux qui divorcent par consentement mutuel ne passeront plus devant le juge. Fini cette longue procédure qui était souvent pesante pour les couples. Ils iront chez le notaire. Votre objectif, c'était quoi? Désengorger très, très simplement, si je puis dire, très directement comme objectif?
C'était abréger un calvaire pour des couples qui ont décidé de se séparer de manière apaisée. Il y a plusieurs cas de divorce en France. Là, je parle moi du divorce à l'amiable, c'est-à-dire là où vous avez un couple qui trouve un accord. Dans la pratique, ça se faisait comment? Ils allaient voir un avocat, ils décidaient de la séparation. Ça se faisait de manière très calme, mais ça prenait parfois jusqu'à 7 mois. À Lyon, par exemple. Eh bien, nous avons considéré qu'à partir du moment où les parties peuvent se mettre d'accord, comme il n'y a pas de conflit, il n'y a aucune raison qu'il y ait un juge. Et donc ça se fera entre avocats, et puis enregistré chez un notaire.
On va voir ça dans le notaire, dans le détail. 15 jours, hein.
Au maximum, ça fera un mois et demi, puisque 15 jours, c'est le délai qu'il y a après la convention pour que les parties puissent éventuellement se rétracter.
Ouais. Est-ce qu'il y avait un côté ancien régime de devoir aller au tribunal pour une affaire privée qui était réglée finalement entre deux adultes consentants?
D'une certaine façon, on se mariait devant le maire et on ne divorçait pas devant le maire, il fallait un juge. Moi, j'ai une conception comme garde des Sceaux, c'est qu'on met des juges quand il y a du conflit. Quand il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de raison qu'il y ait des juges. Ouais. Les juges doivent se concentrer sur les divorces où ça se passe mal. Là, on a besoin d'eux.
Ouais. Alors, pour autant, est-ce que vous ne bradez pas le divorce? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous sacrifiez l'intérêt des familles à celui des magistrats? Ce que je veux dire, c'est qu'on sait parfois que le consentement mutuel, divorce par consentement mutuel, peut être une bombe à retardement, un arrangement vite fait, mal fait, qui finit par exploser des années plus tard. Et souvent, on dépend des enfants, d'ailleurs.
Ouais, c'est pas ce que disent les chiffres. Parce que justement, quand on a travaillé cette réforme, on a essayé de la faire bien. On y a pris du temps, puisque c'est un vieux projet, ça remonte à 2008. Et il y a plusieurs tentatives, il y avait plusieurs choses qui existaient dans les cartons de la chancellerie quand j'y suis arrivé au mois de janvier l'année dernière. On a repris la situation. Le réel, c'est quoi? C'est que dans 99% des cas des divorces, par consentement mutuel, on parle bien de cela, quand il y a du conflit, quand il y a des abandons de domicile, tout ça c'est du contentieux, ça va devant le tribunal, c'est normal. Mais la plupart des divorces étaient rédigés par l'avocat commun des deux parties, qui allait devant le juge, et dans 99% des cas, le juge se contentait d'enregistrer ce qu'on venait de lui dire. Eh bien, nous allons faire exactement la même chose sans le juge. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de contentieux demain qu'il n'y en avait hier.
Je vous donne un exemple. Ouais. On en avait parlé sur RTL lundi matin. Une femme sous la coupe de son mari, pressée d'échapper à cette persécution, pour avoir envie d'en finir plus vite, elle dit « Ok, allez, on divorce par consentement mutuel. » Mais ça peut être assez dépend. Hein, par exemple, elle accepte une prestation compensatoire beaucoup plus faible. Vraiment, son obsession, c'est d'en finir. Comment vous prévenez ce risque-là?
C'est aujourd'hui qu'elle sera mieux protégée. Parce que hier, c'était justement le mari, probablement, qui payait l'avocat commun du couple. Là, elle va avoir son propre avocat. Il aura, lui, son propre avocat. Et l'avocat de cette femme va défendre que les intérêts de cette femme. Et à partir du moment où même l'aide juridictionnelle va lui permettre à elle d'avoir l'avocat en question, ce qu'elle n'avait pas dans le cas que vous évoquiez précédemment, moi, je défends au contraire la conviction que chaque avocat n'ayant qu'un individu à défendre, l'équilibre se fera
donc
là.
Donc vous comptez sur la responsabilité des avocats. Au passage, il faudra que chacun membre du couple paye son avocat.
Oui.
Et un divorce, ça coûte combien?
Ça dépendra des prestations que vont offrir les avocats.
En gros, ça coûte combien de divorcer pour 1 000 euros, 1 500 euros?
Non, mais justement, on ne peut pas dire en gros. On ne peut pas dire en gros, parce qu'un divorce dans un tribunal comme celui de Quimper, où on divorce en 2 mois et demi, qui est la ville où je suis élu, je suis certain que ce n'est pas le même prix d'un avocat qui est dans le quartier de la place Vendôme, où je réside en ce moment.
Vous connaissez la différence des tarifs entre un avocat de Quimper?
Oui, parce que ça peut être... Quand un avocat fait un travail qui se fait sur la base d'un accord entre les parties, ça va très vite. Quand le dossier est extrêmement compliqué. Pour l'avocat, c'est onéreux. Vous pouvez être à 2 000 euros d'honoraires d'avocat. Mais pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un avocat. L'aide juridictionnelle va fonctionner. Or, dans le cas d'hier, l'aide juridictionnelle était calculée sur les revenus du couple. Là, dans la réforme que nous avons décidée, c'est la personne, celle qui est fragile, que vous évoquiez tout à l'heure, si elle n'a pas un centime, l'aide juridictionnelle lui garantit un avocat. Ses intérêts seront défendus par l'avocat.
C'est souvent la femme encore aujourd'hui, ne soyons pas politiquement corrects, qui est évidemment fragile. Vous dites aux avocats, on vous donne un marché finalement. Soyez raisonnable. Soyez raisonnable dans les prix, et puis soyez responsable pour défendre bien votre client.
Absolument. Et il me semble d'ailleurs,
y compris, un avocat et des clients.
Tout à fait, y compris lundi dernier, quand vous avez reçu deux avocats. Certains d'entre eux d'ailleurs n'étaient pas favorables à la réforme au début, mais ils reconnaissent qu'aujourd'hui, ils ont une responsabilité et ça sera leur déontologie, leur dignité d'être à la hauteur de la confiance de leurs clients.
Monsieur le garde des Sceaux, je sais que ce n'est pas votre boulot, entre guillemets, mais est-ce que vous allez contrôler, est-ce que vous allez surveiller les prix? Je le disais, vous êtes d'accord, maintenant ça va être un marché. Est-ce que vous allez exercer un contrôle
Je n'ai pas de prérogative pour cela. Je n'ai pas de prérogative pour cela, mais regardez le monde du droit. C'est un monde qui est basé sur de la concurrence déjà aujourd'hui. Vous savez, quand j'inaugure des tribunaux, je l'ai fait la Foix dans l'Ariège, juste avant les vacances, j'ai rencontré la bâtonnière de Foix. 47 avocats à Foix. Je vous prie de croire qu'à Foix, il n'y a aucune espèce d'inquiétude sur une envolée des prix.
C'est une réforme que vous portez avec fierté.
Oui.
C'est parce que vous aimez cette justice au quotidien, je le sais.
Parce que c'est la justice du quotidien, vous avez raison, c'est exactement le bon terme. Vous savez, on parle souvent à vos micros de la justice pénale. C'est celle qui est spectaculaire. Mais dans votre vie, il y a probablement, et je vous le souhaite, aucune espèce de risque que vous croisiez de la justice pénale. Par contre, la justice civile, c'est-à-dire la justice du divorce, du licenciement, de la succession, du loyer, c'est quelque chose que chacun d'entre nous va rencontrer une fois dans sa vie. Vous savez, il y a 3000 dossiers en cour d'assises par an. Il y a 1 600 000 dossiers devant les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance. C'est cette justice-là qui m'intéresse. Et c'est ce que je fais depuis un an. Et dans le texte dans lequel il y a cette réforme, il y avait 115 articles. Et d'ici la fin du mois de mai, quand je serai garde des Sceaux, je vais publier 50 décrets de cette réforme du quotidien.
Quand vous serez garde des Sceaux, vous l'êtes.
Jusqu'au mois de mai. Et donc, 50 décrets de cette réforme du quotidien. Demain, le PAX, il se fera à la mairie et plus au tribunal. Demain, quand vous êtes surendetté...
Vous faites votre bilan avant l'heure.
Non, je ne fais pas mon bilan. Je dis ce que vous allez traiter dans l'actualité de demain. Juste un mot là-dessus. Les gens qui sont surendettés aujourd'hui, c'est difficile de les faire sortir de ce quotidien. Ça pèse énormément. Il y a des commissions de surendettement. Elles travaillent très bien. Elles allègent les personnes. Et il fallait, pour que ça s'applique, qu'un juge encore décide. Mais le juge n'a plus rien à faire. La Banque de France a fait le travail. Demain, le juge n'interviendra pas. C'est la Banque de France qui fera le travail. On gagne du temps. C'est plus simple et ça va plus vite.
Et on en parlera sur RTL parce que ce sont des sujets, évidemment, sur lesquels on est extrêmement vigilant. Jacqueline Sauvage est sortie de prison il y a une semaine exactement, après la grâce accordée par le président. Une grâce qui est mal passée auprès de certains magistrats, puisque d'une certaine façon, cette grâce présidentielle, prérogative du président, gomme le travail des juges. Vous comprenez leurs troubles ?
Bien sûr. Mais bien sûr, parce que l'article 17 de la Constitution donne cette prérogative au président de la République. Mais les juges savent, comme vous et moi, que la grâce en question n'est pas une amnistie. Madame Sauvage n'a pas été amnistiée. Elle est simplement sortie de prison.
Donc, pour autant, le travail des juges est bafoué. Ils le disent. C'est une prérogative, mais elle est dépassée.
Mais justement, moi, je pars du fait que la Constitution, dans son article 17, donne cette prérogative au chef de l'État.
Donc je peux comprendre. Ça ne vous pose pas de problème qu'il existe
mais
ce droit.
Je ne
vous parle pas de la loi de François Hollande.
Constitutionnellement, ça ne me pose pas de problème. Ce soir, nous allons avoir avec le président de la République les vœux au Conseil constitutionnel. Je ne crois pas que quelqu'un demande la suppression maintenant de la grâce présidentielle.
C'est le geste humain d'un président, enfin.
C'est le geste humain d'un président qui connaît un dossier, qui a reçu les familles et qui s'est longuement qui s'est penché sur cette situation.
Autre prérogative présidentielle qui crée le trouble, c'est l'autorisation de tuer au nom de la raison d'État. Le livre de Vincent Nouzi, dont Le Monde a publié des bonnes feuilles hier, révèle qu'une quarantaine de cibles ont été visées entre 2013 et 2016. C'est considérable, c'est énorme. Par exemple, sous Nicolas Sarkozy, ça n'avait pas été le cas, mais il n'y avait pas la lutte antiterroriste. Que pense le ministre de la Justice, le ministre du Droit, de ces assassinat politique qui échappe totalement, justement, au contrôle des institutions.
Le ministre de la Justice, il n'a pas de domaine de compétence dans ce sujet. Moi, le seul renseignement que je connais, c'est le renseignement pénitentiaire. C'est celui que je suis en train de construire. Ce que vous évoquez sont des propos relatés par un journaliste qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas démontrés, qui ne sont donc que des indications, peut-être des rumeurs. Et donc, vous permettrez de dire aux gardes des Sceaux, justement, de ne pas avoir de commentaires à faire sur ce type de
décision. Ça ne pose pas de problème qu'un président dispose de ce droit de tuer.
Mais je ne sais pas si le président dispose de ce droit de
tuer. Est-ce que ça vous pose un problème que le président en ait lui-même parlé dans un livre signé par Davet et l'homme, dont on a déjà beaucoup parlé.
C'est un livre sur lequel on a déjà beaucoup trop parlé. Et moi, je n'ai pas de commentaire à faire.
Non,
mais je veux dire, comme président de la commission des lois que j'étais avant d'être garde des Sceaux, ces sujets m'ont intéressé. L'État doit se défendre. Et donc, je ne connais pas les moyens qu'il utilise pour se défendre, mais il me paraît légitime qu'un État se défende et défende ses intérêts, défende ses libertés et défende ses citoyens. Mais je ne sais pas les moyens.
Que le président lui-même en fasse l'aveu. C'est cette question-là.
Mais je ne sais pas si le président de la République.
C'est écrit dans le livre.
Oui, mais il y a tellement de choses qui sont écrites dans ce livre qui ont été démenties par la suite, donc je ne le sais pas.
Les rats pullulent toujours à la prison de Fresnes.
Oui, malheureusement, mais pas qu'à la prison de Fresnes. Malheureusement pas qu'à la prison de Fresnes, puisque nous avons un patrimoine immobilier carcéral qui est plus que centenaire. 70% de nos prisons, 70% de nos prisons ont été construites au XVIIIe siècle. Et évidemment, elles sont, la plupart d'entre elles, dans un état déplorable. Nous dépensons annuellement insuffisamment d'argent. L'année prochaine, je vais mettre 160 millions dans la rénovation de l'immobilier. Jusqu'à présent, on en mettait 50 millions
par
an.
Depuis que cette insalubrité, cet état épouvantable de la prison de Fresnes a été révélé en décembre, rien n'a été fait.
Bien sûr que si, au contraire, même avant la condamnation, nous faisons comme nous le faisons au Beaumet, nous reconstruisons, nous dératisons, nous prenons des mesures, mais évidemment, devant la béance du travail à faire, ça sera toujours insuffisant. C'est pour ça qu'il faut construire des nouvelles prisons.
Et vous allez annoncer à la fin du mois la liste des 33 terrains effectivement arrêtés pour des constructions de maisons d'arrêt. Benoît Hamon, dans Le Monde hier, dit ceci: « Je ne me résous pas à une gauche qui se résigne à la prison. Cette doctrine a échoué partout. » Il a tort ?
Non, c'est réducteur. Personne ne se résigne à la prison. Il défend dans le même article la contrainte pénale, qui est un outil qui a été inventé.
C'est une alternative à la prison.
Oui, enfin, qui est une modalité. C'est une modalité que j'avais votée comme parlementaire. Demain, je fais une réunion avec l'ensemble des magistrats pour promouvoir la contrainte pénale.
Il tacle très directement la doctrine de Manuel Valls, oui, mais... et que vous partagez, qui est qu'il faut plus de places de prison pour, par exemple, lutter contre la délinquance, le terrorisme, etc.
Madame Martichoux, nous venons de dire à l'instant que la situation sanitaire de Fresnes rend injustifiable le fait que l'on incarcère dans ces conditions. Quand je promeus la construction de prisons, je me bats d'abord pour la dignité en prison. Être enfermé, c'est une peine. Être enfermé dans des conditions indignes, ce n'est pas normal. La prison n'est pas une peine. La prison est un lieu où on exerce la peine. Moi, je me bats pour qu'il y ait des prisons nouvelles, pour que l'on incarcère en France dans la dignité.
Un mot sur Manuel Valls, c'est votre candidat à la primaire, vous le soutenez, vous serez d'ailleurs présent au meeting
j'ai
de Rennes
ça
le 16.
J'ai appris ça ce matin sur votre antenne.
C'est une information RTL
c'est
de Pauline
bien,
de Sarrémy.
Je me lève en savant, connaissant mon programme 15 jours avant.
Sa campagne est compliquée, Manuel Valls.
Je l'explique pas. Toute campagne est compliquée. Vous savez, dans cette affaire, c'est très simple. Hein. Qui sera le candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle?
Il faut que ce soit Manuel Valls pour vous.
Ça sera Manuel Valls. C'est le seul qui peut le faire. Qui peut nous y amener? Le chemin est long. Il ne suffit pas d'avoir le permis de conduire, il ne suffit pas de connaître le parcours, il faut savoir conduire. Eh bien, savoir conduire, ça s'appelle l'expérience. Manuel Valls est le candidat de l'expérience.
S'il perdait, l'hypothèse que vous envisagez ou pas, le PS explose, la gauche se fracasse, est mort.
Faites pas de saute-mouton sur les échéances. Je trouve que cette campagne pour les primaires est déjà tellement courte, faisons en sorte qu'elle soit pleine, que chacun puisse s'exprimer, et que tous les électeurs de gauche qui n'ont pas envie de se résigner à une alternative entre la droite et l'extrême droite, choisissent le bulletin de Manuel
Valls.
Vous
êtes très serein sur la possibilité que Manuel Valls remporte la primaire.
Je suis très serein parce que je connais Manuel Valls, je l'ai vu comme ministre de l'Intérieur, je l'ai vu comme Premier ministre, et je sais que dans la période compliquée, c'est le seul qui nous conduira au deuxième tour.
C'est dit, merci Jean-Jacques Urvoas.
Merci à tous les deux, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.